Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
bonjour, c'est l'émission Livres et Amis du 15 janvier. Nous vous disons le bonjour et puis annonce du menu. D'abord, quelques nouvelles prises dans Mille Mamors sur ce qui se passe à Marseille. Ensuite, sur les livres qui viennent de sortir. Et enfin, on vous lira des extraits du livre de François Ruffin, Il est où le bonheur ? Donc, dès ce soir, à Mille Mamors, 61 rue Consola, il y a une réunion de RESF de jusqu'à 20h seulement, et ça commence à 17h30, ils sont raisonnables sur les heures, hein, on ne peut pas dire. Enfin, jeudi, à 17h30, c'est au carrefour Saint-Louis, cours Saint-Louis-Canebière qu'aura lieu le cercle de silence pour dire non en silence à la politique de l'immigration. Toujours jeudi, 19h, au Dar La Mifa, c'est 107 rue d'Aubagne, Arte Migrante, c'est une soirée Arte Migrante qui est programmée. On passe à vendredi.
Moi j'ai autre chose pour jeudi.
Quoi ?
Il y a une réunion Mars Actu au Théâtre de l'Œuvre sur les candidats les essais de rénovation politique à Marseille.
Voilà.
Donc, Mars Actu, 20h au Théâtre de l'Œuvre le jeudi.
Alors maintenant que tu as rétabli quelque chose, une date importante, j'en viens à vendredi. Il y a au local de Solidaire, 45 Boulevard Longchamp, une réunion sur les retraités. Et il y aura la projection d'un film de Ken Loach, L'Esprit de 45. C'est pas beau. Ken Loach sur L'Esprit de 45, ça doit pas être mal. À 19h à la Casa Colorado, c'est 76 rue Consola, une présentation par l'auteur du Voyage au cœur de Costa Rica. Il s'appelle Lena, l'auteur, et c'est un autre regard sur le Costa Rica. Enfin, samedi, bon, la manif, et puis, on vous parle plutôt des réunions que des manifestations. Samedi, le 18 janvier, à 15h à Mille Mamors, une réunion publique sur la révolution internationale.
Oui.
C'est les gens qui veulent la révolution, c'est pas beau, comme dit la révolution internationale. Je passe maintenant au livre, et à propos de livres, nous vous avons lu la semaine dernière La clé USB, et bien on se trouve en pleinement en parallèle avec la télévision, parce que sur la 5, il y avait hier un film sur Huawei. Et en effet, l'auteur avait dit dans une interview qu'il voulait parler de ce qui se passait maintenant et que tout ce qui est dit dans le livre est vrai. Alors, nous saluons notre conjonction avec les médias. Et tout de suite, donc, les livres. Et on reste en Chine. Hein. Il est midi à Pékin. C'est paru chez Fayard. 38 reportages. Et ils ont eu le prix du livre d'économie qui est organisé par l'association Lire la société. Ensuite, à la demande d'un tiers, c'est Grasset, 162 pages, 16 euros. Le précédent, c'était 250 pages, il est plus lourd, 19 euros. Donc, l'autre, c'est... Et les auteurs, est-ce que j'ai dit les noms ? C'est Éric Scholl et Gilles Fontaine. Deuxième livre, à la demande d'un tiers, c'est paru chez Grasset, 162 pages, 16 euros. C'est Mathilde Forger et c'est un premier roman. La narratrice est une expiègle, peut-être pas très assez proche de l'auteur, mais on ne dit rien. Et elle se trouve affligée, si on peut dire affligée, d'une grande sœur étrange qui de temps en temps perd complètement les pédales et s'imagine dans un autre monde. Et elle part en quête d'une explication, d'autant que leur mère s'est donné la mort. Et on peut, le livre est à leur regard sur l'univers psychiatrique, un regard sévère, parce qu'elle reproche à l'univers psychiatrique d'empêcher les gens de toute révolte. Autre livre, Les Fillettes, c'est paru aux Équateurs, 180 pages, 12 euros. Et c'est Clarisse Gorak qui écrit ça, Les Fillettes. Et je m'aperçois que je n'ai pas pris plus de notes en regardant la recension des journaux. Et Les Fillettes, sûrement c'est féministe, hein, c'est pour ça qu'on vous le recommande. Enfin, un titre étonnant, La Panthère des Neiges, de deux hommes, je les ai écoutés sur France Inter, Sylvain et...
Sylvain Tesson.
Quoi?
Sylvain,
ouais.
Tesson.
Ouais, ouais, ouais. Tu connais? Ah, pas moi. J'ai découvert. Et Vincent Mounier, qui est lui photographe et qui a invité Vincent Tesson à venir au Tibet avec lui pour être à l'affût de cette fameuse Panthère des Neiges dont on se demandait depuis longtemps si elle existait ou pas. Eh bien, elle existe. Et en tout cas, c'est un éloge de l'attente, du froid, de la montagne, de la solitude, qui est dans ce beau livre. Enfin, dernière indication, Le Petit Bidon et auteur texte. Ça va nous changer parce que c'est de la poésie, hein. Et c'est la collection POL et format poche. L'auteur, Christophe Tarkov, est mort jeune. Et il souhaitait que ce livre soit populaire. C'est en effet, il a 224 pages et il coûte 9,50 euros. Voilà, je cite un seul titre, c'est Après Dieu. Le titre m'avait emballé, puis quand j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, c'est fait par le président de la Fédération protestante de France. Et Après Dieu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il découvre Après Dieu? Ben non, Après Dieu, c'est plutôt la résurgence de l'évangile en bon protestant. Donc, j'en dis pas plus sur le livre. Et maintenant, tout de suite, François Ruffin, Les liens qui libèrent, ont publié son livre « Il est où le bonheur ?» Une remarque stylistique, hein, c'est pas parce qu'on fait de la littérature qu'on fait pas de stylistique. « Il est où le bonheur ?» c'est ce que les professeurs de français diraient que c'est du français familier, trop familier, ce qui serait du style moyen, selon la théorie des trois styles, familier, moyen et soutenu. Eh bien, ce serait « Où est le bonheur ?» Mais « Où est le bonheur ?» Franchement, c'est plat. Tandis que « Il est où ?» D'abord, on entend le « où » beaucoup, beaucoup plus. C'est le lieu, la configuration qui est intéressante.
Cours-y vite.
Quoi? Et oui, qu'on est amené à visiter. On va voir quelle réponse donne l'auteur. L'auteur, il est député de la Somme. Il a été rédacteur en chef à Fakir. Il est diplômé de l'École nationale de journalisme. Et il est l'auteur de films qui sont bien connus, Merci Patron, et Je veux du soleil. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas un auteur comme les autres, c'est tout à fait différent de Jean-Philippe
Toussaint, qu'on
vous lisait la semaine dernière, et qui est une carrière, on peut dire, d'écrivain. Mais enfin... Saluons cette diversité et nous en réjouissons d'ailleurs. Et je dis l'auteur, mais il tient à préciser que c'est toute une équipe largement bénévole qui l'a aidé à faire le livre. Le livre se présente en 50, pas moins de 50 petits chapitres, mais surtout 5 sections, 177 pages. C'est un livre court, mais lourd d'informations. Hein. Alors, il fait un état des lieux, première partie. Ensuite, il donne... Ce qu'il appelle les maîtres du Titanic, c'est-à-dire les maîtres du naufrage de notre civilisation. Il dénonce donc. Puis ensuite, c'est à l'école de Jaurès. Il cherche, après avoir trouvé ce qui se passe, après avoir découvert ce qui se passe maintenant, il en vient au passé et aux grandes traditions. Et c'est comme j'aime bien l'histoire, vous aurez peut-être plus de lecture sur cette partie-là. Enfin... Hein, après, à la lumière de Jaurès, eh bien, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il y a? Ah, et ça commence par se mettre, il commence par se mettre sous l'exergue de deux grands noms, et on vous lira donc la première, l'exergue.
Et Bartolomé de las Casas, voilà. Et Anna Arendt. Voilà. Donc Bartolomé de las Casas, jésuite du XVIe siècle, qui a écrit La controverse de Valladolid,
oui,
sur donc, « Des hommes si noirs peuvent-ils avoir une âme ?» Et donc Bartolomé de las Casas nous dit « Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or, de l'or, de l'or. » Au point qu'en certains endroits, les habitants des Terres Nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils en font de tout cet or? Ils doivent le manger. Tout est soumis à l'or. Tout. » Le deuxième parrain ou marraine du livre, c'est Anna Arendt, donc sociologue bien connue pour ses travaux essentiellement sur la Deuxième Guerre mondiale. « Cet optimisme forcené, voisin du désespoir. »
Voilà, auteur de la naissance du fascisme, et elle a vécu aux États-Unis, elle est maintenant décédée, mais c'est une grande figure, ils aiment bien mélanger de grandes figures du passé lointain, comme Las Casas, ou du passé beaucoup plus récent. Et il va faire il va nous donner une vision terrible de l'état de la planète, mais il reste pas longtemps dans cette grande confrontation de la planète et de l'univers politique qui est impuissant devant ce grand mouvement. Et il évoque un voyage avec un sénateur socialiste. Ils allaient faire un tour pour probablement prendre contact avec le terrain, comme ils disent.
Oui, tu as quand même omis de dire que François Ruffin, député de la Somme, il est député LFI de la Somme, quand même.
Si j'oublie la France insoumise, alors ça ne va plus du tout.
Mais bon, voilà. Et là, il part dans le Jura avec un sénateur socialiste du Jura qui va en effet sur le terrain et qui lui parle de ses problèmes. Donc, je cite maintenant le livre. « Dans le TGV qui m'amenait ce mercredi dans le Doubs, je voyageais avec un autre profil, pas du tout Youth for Climate, le sénateur socialiste Martial Bourquin, 67 ans, mais touillant notre café au wagon-bar, eh bien, voici de ce dont il me fit part. Chez nous, dans le Jura, les êtres sont... Les êtres, hein, il faut inspirer le H, les êtres, les grands arbres, sont en train de mourir. Ils manquent d'eau. L'air devient trop chaud. Ils crèvent, ils disparaissent. Ou alors ils se réfugient en altitude seulement. » Et en Suisse, j'ai lu ça dans Le Temps c'est le journal de Genève, ils viennent de se déclarer en catastrophe forestière. Sur la route ensuite, en voiture, Martial nous les a montrés sur les collines. Un tiers des arbres demeurent bruns, ne verdissent plus jamais durant l'été. Je ne venais pas en Franche-Comté pour ça. Je venais à Nance-sous-Sainte-Anne pour la source du Lison, pour Charles Bocquier et les sites classés. Mais au casse-croûte, entre charcuterie et fromage, dans la petite salle municipale, les maires ruraux ne m'ont causé que de ça, ou presque. Quand j'étais jeune, on recevait des amis le soir. Qu'est-ce qu'on faisait? On sortait la canne, on attrapait 4 truites dans la rivière derrière. C'est fini maintenant, il n'y a plus rien dans les rivières maintenant. Les étrangers venaient de loin pour pêcher chez nous. Et c'est plein d'algues désormais. L'eutrophisation. Comment vous voulez que les poissons respirent? Et tout ça, c'est à cause du comté. Bon, en fait, tant mieux pour la région, ce succès du comté. Mais avant, on en produisait 20 000 tonnes. On a triplé avec les exportations. Les prairies sont arrosées de glyphosate. Ils répandent du lisier. Et voilà le résultat. Et il y a la sylviculture aussi. On ne coupait le bois qu'en hiver. Maintenant, pour des raisons économiques, parce qu'ils investissent dans des grosses machines, ils coupent toute l'année.
Voilà. Mais tout de suite après, comme il n'aime pas rester dans la désolation, il dit qu'il y a quand même des rebelles. Et il cite une institutrice qui fait dessiner aux enfants uniquement des animaux pour qu'ils connaissent ce que c'est que la nature et les bêtes. Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre qu'il cite, et qui est pêcheur et qui aime bien aller pêcher et qui fait en sorte que les enfants connaissent
la nature.
Connaissent les poissons. Et alors, il cite un jeune garçon qui s'appelle Mati. Mati, il demande pourquoi les bêtes ont déserté le village.
En fait, oui, l'institutrice et le pêcheur, ils font prendre connaissance aux enfants de la nature en leur faisant faire des dessins. Et le pêcheur, là, il fait des petites statuettes. Et donc, voilà, en fait, ils font ça parce qu'ils ont l'impression qu'en effet, les enfants ne savent plus à quoi ressemble un papillon, un poisson, un renard, etc., etc. Donc, le gamin, là, Mati, il demande à son père un jour, mais pourquoi les animaux ont disparu du village ? Et donc, le père hésite avant de répondre, se lève de son tabouret, un peu nerveux, se met à faire les 100 pas dans la pièce. Eh ben voilà, Mati, il s'est passé certaines choses ici. Bon, des choses, peut-être, il n'y a pas de quoi en être fier. Mais nous ne sommes pas tous responsables, en tout cas. Et puis d'abord, c'est pas à toi de juger maintenant, tu es trop jeune. De quel droit tu nous blâmerais ? Tu peux pas condamner les adultes tout le temps. Et puis, qui t'a parlé des animaux ? Bon, ben, les animaux, on les oublie, voilà, un point, c'est tout. N'y pense plus, personne n'a plus envie de se rappeler. Et va me chercher des pommes de terre à la cave et arrête de parler pour ne rien dire. Bon, et puis écoute, Mati, c'est pas la peine d'avoir ce genre de conversation. Hein. C'est comme si on n'en avait jamais parlé.
Voilà encore. Il va heureusement rencontrer d'autres jeunes. Et avant cette rencontre, il évoque Veblen. Veblen, et avec la grande notion des classes de loisirs. C'est le premier écologiste, tout à fait au début du XXe siècle. C'est la troisième fois depuis que je lis des livres où il est question un peu d'écologie que j'entends parler de Veblen. J'étais très contente d'entendre parler de cette façon-là. Et Veblen a cette théorie de la classe de loisirs. Je ne trouve pas le nom très bien choisi.
Il
dit que la lutte des classes... Oui, c'est ceux qui vont dans un centre aéré. Et que la lutte des classes, la notion se perd... Parce que les gens, ils regardent ce qui est juste au-dessus d'eux, la classe qui est juste au-dessus d'eux, et ils veulent gagner un peu plus d'argent pour être au niveau de la classe qui est au-dessus d'eux. Ils perdent complètement la notion de la lutte des classes. Mais Veblen a quand même été apprécié parce qu'il était un vrai écolo qui ne consommait pas d'électricité et qui se prenait tout le temps en vélo. Mais cependant, hein, il y a d'autres... Il y a d'autres forces que celles de Veblen et il parle des élites éclaircissantes. Il dit que les élites devraient être éclaircissantes et qu'elles sont en fait obscurcissantes. Et on voit qu'il dénonce non seulement la droite, mais une certaine écologie qui serait une écologie qui sans annoncer... Et une écologie, je cherche mes mots, qui ainsi invite au consensus, page 30.
Oui, alors de quoi parle-t-on ? D'un thème éternel, la nature, qui a traversé plus que les siècles, plus que les millénaires. Que chantaient déjà Virgile, et avant lui Hésiode, et avant eux encore les poètes anonymes de la Genèse. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres fruitiers... et que toutes les espèces contiennent leurs semences et la distribuent sur la terre. Et cela se passe ainsi, et Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi, et Dieu vit que c'était bon. Donc, la nature contre la culture, la nature sans l'homme et ses querelles, la nature neutre, la nature pure, la nature qui abolit les partis, la nature qui a priori nous réunit, nous, terriens, dans notre nudité. Mais dans la catastrophe elle-même, quel réflexe nous vient ? Si les oiseaux disparaissent, se dit-on d'instinct, c'est pour tous que leur chant s'éteindra. Si la banquise fond, c'est partout que le niveau des mers montera. Si la forêt amazonienne est éventrée, c'est toute l'humanité qui en sera touchée. Si le permafrost de l'Arctique relâche son CO2, c'est la température du globe tout entier qui s'élèvera. Et moi-même, ce livre, je l'ai ouvert par ce « tous universels, tous parents, nous tous, traversés par une même angoisse ». Sans distinction, tout cela, ni de genre, ni de couleur, ni de classe. Le bon sens nous dicte ça. Nous sommes tous sur la même planète, tous dans le même bateau, tous dans la même galère. Tiens, nous aussi. Aussi, pour nous sauver, devrions-nous tous ramer dans la même direction. Mais parfois, ce bon sens général nous égare. Cet instinct général de la nature nous trompe. Le réflexe est mauvais. Et c'est sur ces a priori naturalistes qu'il faut revenir. Il faut les contredire, les déchiqueter et analyser d'autres bases.
Voilà. Et c'est ainsi qu'il prend un exemple justement de cette dérive de l'écologie avec la, comme on appelle l'économie verte. Et c'est le Sea Fire One, c'est-à-dire un grand bateau, un grand paquebot, 54 mètres, 3 étages, et il va éditer un dialogue avec l'architecte de ce bateau en disant « Mais vous dites que c'est quelque chose qui est propice à l'économie verte et à la politique environnementale, mais vous vous rendez compte tout ce que ça dépense comme pétrole. » Et c'est ainsi que ce grand vaisseau, on en voit à Marseille, hein, eh bien, est le symbole de cette croyance en l'économie verte qui est une déviation de l'écologie. Et il va rencontrer des jeunes et il est très étonné. Alors, il aura d'ailleurs dédié le livre en disant que c'est pour Sarah et j'ai oublié le nom du garçon, mais ça me reviendra. Et il est étonné de la capacité des jeunes à comprendre les choses et à prendre la mesure de ce qui est grave dans la planète. Ils parlent de l'anthropocène et ils sont très sensibles à toutes les différences et cette inégalité terrible, la valeur des 500 fortunes. C'est après Challenge qui cite, hein, passe de 80 à 570. Hein, et on voit donc...
Les riches sont de plus en plus riches, et les très riches sont de plus en plus riches, et les ultra-riches sont de plus en plus riches.
Et il dit que le patrimoine médian, eh bien, il stagne depuis 96, en enchaînant après ce qu'a dit les jeunes. Là aussi, on le voit citer un auteur alors bien connu et contemporain, Hervé Kampf, Comment les riches détruisent la planète.
Super bouquin, hein, allez lire Comment les riches détruisent la planète de Hervé Kempf.
Et il va conclure cette grande partie de son livre par une... On vous la lit avant de vous mettre de la musique, et c'est page 66.
Oui, donc c'est ce chapitre qui s'appelle « Les maîtres du Titanic ». Donc, et là, sa conclusion, c'est « Ils nous dirigent et ils nous dirigent droit vers l'abîme ». Le gouvernail est aujourd'hui entre les mains des plus fous, des plus inconscients, des plus aveugles ou des plus cyniques. Nous devons leur reprendre le volant des mains. Nous devons appuyer sur le frein. Nous devons changer de direction. Et il n'y a pas de place, alors, pour le consensus. C'est un conflit, oui. C'est une lutte pour le pouvoir, oui. Et c'est surtout un combat pour notre survie.
Voilà comment il définit le combat qui est à mener aujourd'hui et qui est d'une importance qui s'impose. Et on va mettre un peu de musique, mais je vois que Sylvie n'est pas là. Donc, on remarque quelques remarques sur ce chapitre, les maîtres du Titanic. Parce que le Titanic, ben, c'est nous. C'est le monde qui est en train de couler et qui, cependant, est bien tranquille avec les premières classes, des salons splendides, les salles à manger splendides, les gens qui dansent et qui écoutent de la musique. Et voilà comment les maîtres du Titanic, je me disais... Mais, qu'est-ce que ça signifie, Titanic? Mais oui, c'est une belle image.
C'est nous qui coulons. C'est le vaisseau qui coule.
Il a une... Voilà, Sylvie va nous mettre de la musique.
Et après...
Et le Titanic, il s'en doutait pas du tout. Revient sur la rencontre avec des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont font partie d'une association qui s'appelle Youth, la jeunesse, for Climate, la jeunesse pour le climat. Et lui, il voudrait qu'il y ait une élite éclaircissante. Et il insiste sur le fait qu'il n'est pas populiste et qu'il faut une élite. Il faut éclaircissante, oui, il emploie le mot éclaircissante à cause de l'obscurantisme. Et il va citer le portrait de Trotsky par Victor Serge, et c'est une autre notion qui arrive, c'est la notion de génération. Il pense à tout ce qui a été fait par les bolcheviks, et il a dit qu'il faut une génération entière pour que cela disparaisse, et que maintenant, l'idée de communisme est complètement mise à bas. Alors, voyons ce que dit Tim, Tim et Sarah, le jeune s'appelle Tim.
Alors, donc, en fait, c'est François Ruffin qui parle à Tim et Sarah. Hein, et il leur dit, à 16 ans, vous en savez autant que moi à 43. Alors que je bouffe des bouquins depuis je ne sais combien d'années. Bon, bah, finalement, ces jeunes, je ne vous cache pas mon admiration. Hein. Et en même temps, donc, il parle d'eux, ils confirmaient une intuition. Ce n'est pas eux seulement, cette lucidité. C'est tous les jeunes. Toi, Laetitia, toi, Ulysse, toi, Greta. Et vous, la planète en danger, vous êtes née avec, vous avez grandi avec, ça fait partie de votre ère du temps. Moi, j'ai attrapé ça en route. Parfois, je discute avec des intellectuels plus âgés qui ont blanchi sous le harnais, plein de talents, des génies même. Et alors, l'écologie, je leur demande, et en fait, ils n'ont rien à dire, c'est le silence. Ou alors, ils me répliquent, bon, bah, nous laissons ça aux jeunes. Ou encore, Marx a déjà tout énoncé. Mais sans vous flatter, vous, les jeunes, vous en savez plus qu'eux à 16 ans. Et ce n'est pas votre génie, ce n'est pas votre talent, mais c'est vraiment votre génération. Pas toute votre génération, malheureusement, je le devine. Mais enfin, vous en êtes l'élite. Et alors, à ce mot-là, Tim et Sarah, ils se sont récriés, comme si c'était une injure. L'élite, c'est trop de honte ou trop d'honneur. Et donc, ça fait un peu populiste que je suis. J'en souhaite, moi, une élite, une vraie, une digne, une élite éclairante, une élite qui apporte sa torche dans la noirceur des temps et qui éclipse les élites obscurcissantes et même criminelles d'aujourd'hui. Alors oui, les jeunes, oui, ils sont une élite. Et pour l'instant, les lycées techniques ne bougent pas, ni les lycées professionnels, ni les lycées agricoles. Et alors, même dans les classes, il faudrait quand même les informer aussi. Alors vous, les jeunes, je vous regarde et je songe. Mais où elle est, la pointe avancée de la révolution? Vous me faites penser à un passage des Mémoires d'un révolutionnaire de Victor Serge. Il y dresse ce portrait de Léon Trotsky. Tous les traits de son caractère, de son esprit, de sa vision de la vie appartenaient depuis plus d'un siècle à l'intelligentsia révolutionnaire russe. Des dizaines de milliers de combattants les avaient eus et les eurent à ses côtés. Et je n'exclus pas cette foule de beaucoup de ses adversaires. Ces générations l'avaient porté, l'avaient formé, elle vivait en lui. Et la sienne, produite par les mêmes circonstances historiques, lui était dans son ensemble identique. J'ai tant de noms, tant de visages sous les yeux en écrivant ces lignes que j'y vois une vérité éclairante. Cette génération, donc celle de Trotsky, il a fallu la détruire tout entière pour rabaisser le niveau de notre temps. Et donc, avec maintenant notre génération, le niveau de conscience socialiste qui s'était élevé, eh bien, il se généralise dans la conscience écologique. C'est donc le niveau de conscience écologique qui s'est élevé subitement. Une formidable maturité, mais souvent mêlée à une grande naïveté et à une grande candeur politique.
Voilà. Et il conclut en disant qu'il lui manquait Marx et il lui manquait la lutte des classes avec Victor Serge. Enfin, il y a une question que les jeunes ont dû lui poser, même s'ils sont bien socialistes, c'est il y a quand même des bons patrons. Et il répond bien sur les bons patrons.
C'est quelle page, les bons patrons?
C'est page 82.
D'accord, j'ai bien des choses à dire sur les bons patrons aussi. Mais pourquoi ne pas faire confiance aux entrepreneurs, des patrons? Il y en a des bons, non? Nous disent ces jeunes. Des bons, oui, sans hésiter, oui.
Ouais. Je t'interromps pour dire que je me suis trompée. C'est pas Victor Serge, on peut pas lui dire qu'il n'est pas marxiste. C'est justement le bon patron à qui il manque la lutte des classes et le marxisme.
Donc le bon patron, sans hésiter, oui, et je n'ajouterai même pas, comme Jean Gabin dans Le Président, il existe aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. J'ai raconté la loi Villermet de 1841. Dans mon coin, dans la Somme, Monsieur Lecomte, directeur de la fabrique d'Ouscan, il a joué le jeu. Il a reçu l'inspecteur du travail, alors inspecteur pour l'honneur, bénévole, et le docteur Frary a convaincu le patron. Dans son usine, il a banni le travail des enfants. Mais 2 ans plus tard, c'est une lettre que l'industriel a adressée à l'inspecteur. « Depuis que je suis convenu avec vous, monsieur, de mettre à exécution la loi sur le travail des enfants. » Alors, je crois qu'à l'époque, on limitait le travail des enfants à 8 ans. À partir de 8 ans, ils pouvaient travailler quand même. Cette loi a été scrupuleusement observée dans nos ateliers. Mais aujourd'hui, je regrette véritablement d'avoir poussé à l'exécution de cette mesure. Tous nos concurrents de Rouen, de Saint-Quentin et compagnie, qui vendent en dessous du cours, eux, ils peuvent le faire parce qu'ils font travailler les enfants à grande journée et sans aucun frais. Et c'est juste le résultat de la concurrence entre nos entreprises. Donc voilà, dans cette histoire, même le bon patron est puni. Et il faut comprendre cette règle qui vaut pour l'époque, hein, c'est le milieu du 19e siècle, comme pour aujourd'hui, comme le social pour l'écologie. Avec une concurrence libre et totalement faussée, La vertu n'est pas récompensée, elle est pénalisée. Quand le vice, lui, permet d'être compétitif et de remporter des marchés. Il ne s'agit plus d'hommes, bons ou mauvais, mais alors d'un système qui les dépasse et qui, de toute façon, encourage les actes nocifs s'ils sont productifs de bénéfices.
Voilà. Et c'est dans ce... au début du XXe siècle, il y a eu des luttes extrêmes, à la fin du XIXe, des luttes du XIXe siècle, des luttes extrêmement dures, mais tout de même, il y a eu le 1er mai 1906, après une catastrophe, et les bourgeois ont eu très peur.
Oui.
Page 88.
D'accord. Alors, c'est la catastrophe de Courrières. Hein. Oui. Moi, j'ai été élevée dans le mythe, enfin, pas le mythe, mais l'histoire qu'on racontait de la catastrophe de Courrières. La fête des travailleurs de 1906, qui suit la catastrophe de Courrières, s'annonce terrible. La jeune CGT a annoncé qu'elle ferait de ce jour-là un 1er mai pas comme les autres. C'est d'ailleurs ce que raconte Jean-Denis Bredin. Et la CGT a décidé de canaliser tous les forces syndicales vers une seule revendication, la journée de 8 heures. À Paris, la peur est extrême. Les bourgeois achètent des conserves et s'enferment chez eux. Les capitaux s'enfuient. Ça nous rappelle d'autres périodes aussi. Hein. Clémenceau reçoit les dirigeants de la CGT et les prévient qu'il sera impitoyable. Vous êtes derrière une barricade, moi je suis devant. Votre moyen d'action est le désordre, mon devoir c'est de faire l'ordre. 45 000 hommes de troupes, 45 000, sont massés dans la capitale. Le secrétaire général de la CGT est préventivement arrêté et inculpé. Le 1er mai se passe, sans trouble important, mais de nombreuses grèves prolongent l'arrêt de travail du 1er mai. Et la crainte bourgeoise ne sera pas sans suite. La révolte ouvrière y aura gagné la loi du 13 juillet 1906 qui rend obligatoire le repos hebdomadaire. Ils réclament la journée de 8 heures ? Bon, bah au moins, ils ont eu le dimanche.
Voilà. Une autre, il bat en brèche une autre notion aussi, c'est ce que les écologistes dissidents mettent en avant, et évidemment la classe dominante, c'est la notion d'écologie punitive. Ah, écologie punitive, qu'est-ce que vous en pensez ? Page 90.
Ma chef de cabinet, en ce mois de juillet, elle s'est envolée. C'est une manie. Et elle en culpabilise un peu. Tu sais, moi, François, j'ai besoin qu'on me pose une limite, sinon je prends l'avion tous azimuts. Enfin bon, il me faut une contrainte pour accorder mes actes et mes idées. La vertu écologique, tout comme la vertu sociale, ça ne va pas de soi. Elle coûte même souvent. D'où ma proposition de loi déjà mentionnée sur les vols intérieurs. Le ministre de la Transition écologique, lui, se montrait plus optimiste quant à la nature humaine. « Vous ne faites pas confiance aux citoyens. » Et la ministre des Transports assénait « Il n'y a pas besoin d'interdiction, les Français peuvent faire preuve de responsabilité. » Tandis que je serais, moi, partisan d'une écologie punitive, l'ombre de Robespierre. Je suis partisan de faire mon boulot, des lois. Interdire de fumer au bureau, est-ce punitif ? Limiter la vitesse, attacher sa ceinture, est-ce punitif ? Imposer un salaire minimum, est-ce punitif ? Non, ce sont juste des lois. Et lorsqu'il s'agit du secret des affaires, les mêmes ministres se bornent-ils alors à faire confiance aux citoyens ? Décrètent-ils que les Français peuvent faire preuve de responsabilité ? Non, ils ne s'embarrassent d'aucune fausse pudeur et recourent à la loi, au punitif, comme ils disent. Dans la moindre parcelle de propriété, pour la protéger, ils sortent sans tortiller toute l'artillerie. Amendes, sanctions, peines de prison, etc. Tout en diable. Mais dès qu'il s'agit de protéger les biens communs, alors les voilà qui s'en remettent à la pédagogie, à la responsabilité, à la confiance. Donc, soyons punitifs.
On n'est pas, on est punitif, c'est variable, hein, c'est variable comme on voit. Et il va évoquer une grande figure, c'est celle d'Antoine Croizat. Et nous, on connaît Ambroise Croizat, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à connaître son père, Antoine, page 93.
Alors, Antoine Croizat travaillait comme manœuvre dans une fabrique de carbone, 12 heures par jour, à taper sur des bidons de carbure face à des fours à 1500 degrés, sans aucune protection, sans tablier de cuir. Avec, à la clé, lui ou les autres, des blessés, des morts, des veuves, des familles sans revenus. Le 21 mars 1906, c'est la révolte, dont les archives de police conservent la trace. Sortent de l'usine, drapeau rouge en tête, 7 ouvriers. Ils réclament la création d'une caisse de secours. Dans la vallée, la grève se fait contagieuse. Toutes les industries sont à l'arrêt. Au bout de 7 jours, le 28 mars, l'industriel plie. Il reconnaît le syndicat, concède une augmentation importante, accorde 3 jours de congé, annuel je suppose, et surtout ouvre une caisse de solidarité. Antoine Croizat, en revanche, n'est pas repris. Et la police note, l'ouvrier Croizat accepta son sacrifice. Avec sa femme Louise, avec ses enfants, dont le petit Ambroise, il quitta Notre-Dame de Briançon, accompagné à la gare par 300 ouvriers et par une fanfare, dans un mélange de tristesse et de triomphe. Cette caisse de solidarité, c'est l'embryon de la sécurité sociale. Il faut imaginer le même récit dans 1000 usines, à Monceau-les-Mines, à Châteaubriant, tout au long du XIXe siècle, avec des assurances privées d'abord. Et puis ce mouvement, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est généralisé, mais tout de même, il n'y a qu'un tiers de la population qui est couvert. Donc il faut attendre 36, 38, 45, enfin 44. Hein. Les jours heureux, c'est connu. En pleine occupation allemande, le Conseil national de la résistance a promis les jours heureux, avec notamment un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés. La surprise, ce n'est pas ce beau programme, mais c'est qu'il est pratiquement totalement appliqué, grâce au rapport de force. À la Libération, la CGT affiche 5 millions d'adhérents, tandis que le patronat, sali par la collaboration, se fait très discret. Et en octobre 1945, aux élections législatives, le Parti communiste recueille 28% des suffrages, plus de 5 millions de voix. Impossible, dira le général de Gaulle dans ses mémoires, de ne pas entendre la voix profonde du peuple comme on entend la rumeur de la mer. Et c'est un ministre communiste, donc, Ambroise Croizat, le fils d'Antoine, qui va achever l'œuvre de son père en 1945.
Voilà. Il faut ajouter la réflexion de Laranque, qui a été le premier, monsieur Laranque, qui a été le premier directeur de la sécurité sociale et qui salue la rapidité avec laquelle tout s'est mis en place. Il a dit, en l'espace d'une année, même pas, eh bien, tout a fonctionné, ça a fonctionné. Et c'est à ce moment-là qu'il fait un rappel de l'incendie des Riquiers. Les Riquiers, c'était des grands propriétaires. Et c'est une histoire qu'on raconte avec des trémolos dans la voix, parce que les meubles du château ont été jetés dans les temps et le château a été incendié. Et ça fait partie, donc, de tous les malheurs de ces pauvres capitalistes. Et Georges Clémenceau, à ce moment-là, est ministère de l'Intérieur. Et il veut réprimer. Mais à ce moment-là, Jaurès monte à la tribune et nous allons écouter Jaurès.
Jean Jaurès monte alors à la tribune. Le propre de l'action ouvrière, dans ce conflit, lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder en effet par la brutalité visible et saisissable des actes. Ah, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus, seront chassés. Cela ne fait pas de bruit. C'est le travail meurtrier de la machine capitaliste qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant. La machine ne grince même pas et c'est en silence qu'elle le broie. Et le tribun de rappeler la catastrophe de Courrières, ce coup de grisou qui, en ce début d'année 1906, a fait plus de 1000 morts dans les mines du Nord et des sauvetages très vite arrêtés. Parce que les installations devaient être sauvées avant les mineurs.
Et voilà comment se comporte le capitalisme. Et il n'emploie pas le mot. C'est très curieux dans le livre. Il ne se présente pas comme anticapitaliste. Et pourtant, s'il ne mouillait pas, le fond y est vraiment, vraiment. Et il voit comment Jaurès a pu devenir Jaurès. Et il dit il a fallu Jaurès au socialisme français, mais il a fallu le peuple pour que Jaurès devienne Jaurès. Et il va passer immédiatement à une lutte actuelle, c'est le cas des Goudieurs, page 118.
Ah ouais, alors ça c'est dans la deuxième partie, dans la quatrième partie qui s'appelle les deux cœurs. Le cas des Goudieurs, leur
les
nom.
Les deux cœurs, c'est les intellectuels et les ouvriers.
Le cas des Goudieurs, leur nom, franc et massif, devrait être pour nous un point de départ vers autre chose et qui ne relève pas du rêve. Que le progrès technologique, le progrès écologique serve le progrès social. Que par exemple, si on a besoin de moins de pneus et de moins de temps pour les produire, les ouvriers travaillent 2 ou 3 heures de moins, ou encore que cesse cette aberration, le travail de nuit. C'est une question essentielle que les Goudieurs posent à chacun. Quelle société voulons-nous ? Au fond, très au fond, cette histoire portait en germe une lutte antiproductiviste. Encore fallait-il en dégager le sens, à peine caché, le faire éclore, s'épanouir. Et alors ce combat catégorial, corporatiste, car oui, pour les ouvriers, il s'agissait d'abord de ne perdre ni leur santé à eux, ni leur boulot à eux, a vite pris une valeur plus universelle, plus politique. Honnêtement, je me demandais comment ce machin antiproductiviste serait reçu par les ouvriers eux-mêmes, par la CGT Goudière, et si on renverrait les gars le papelard dans la figure. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Les travailleurs l'ont lu en détail et toute une semaine, ils ont eux-mêmes distribué le papier. Ils l'ont photocopié, comme s'il émanait de leur rang et ils l'ont diffusé dans les rassemblements. Et ça nous a émus et ça nous a attristés. Bon, ça venait un peu tard. Nous avions loupé le coche parce que par timidité, par fatigue, nous n'avions pas rempli notre rôle, disons, d'intellectuel. Nous n'avions pas replacé cette lutte dans un vrai contexte. Nous n'avions pas offert un regard plus large. Nous n'en avions pas fait un enjeu de société.
Voilà comment apparaît le nous. Le nous, c'était l'union des intellectuels et de la classe ouvrière, et plus particulièrement là, l'union des ouvriers et des écolos. Ça nous parle beaucoup à Marseille avec ce qui se passe à la centrale de Gardanne, la centrale à charbon. Les ouvriers de la centrale à charbon veulent absolument garder l'unité charbon et les écolos de la boîte, ils sont opposés. Et les deux n'arrivent pas à se joindre. Et saluons donc un moment où se sont joints les deux revendications. On cherche toujours l'articulation entre le mouvement ouvrier et les écolos. Et on dit c'est difficile. Eh bien non, ce n'est pas toujours difficile. Ça peut se faire.
Et tu vois, là il dit, donner un sens à la lutte, c'est aussi la lutte.
Voilà.
Donc en fait, c'est ça. C'est faire que les luttes se rejoignent et prennent un sens général pour tous.
Alors, on va vers la philosophie, hein, parce que la philosophie, ce n'est pas de dire la vérité, c'est de chercher le sens. Et là, il cite un certain Pablo Servigne, qui vient d'Amérique latine, et c'est page 134, il dit que la nature nous invite, alors c'est très philosophique, je ne sais pas jusqu'à quel point ça m'a ouvert les yeux, et si j'ai adhéré, la nature nous invite, il dit que la loi de la jungle, ce n'est pas du tout la loi du plus fort, mais que c'est la loi de l'entraide.
L'entraide est un facteur d'innovation dans le vivant. Dans son évolution, depuis 3 milliards d'années et plus, enfin presque 4 milliards d'années, les plus coopératifs survivent. Ce n'est pas un petit fait divers, c'est un phénomène massif. L'autre loi de la jungle, la compétition, elle existe bien sûr, mais finalement beaucoup plus ponctuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle est source de stress, elle est épuisante, dangereuse et elle coûte aux espèces. Alors que l'entraide, c'est vraiment le facteur de base de l'évolution positive. Donc là, ils discutent avec... comment il s'appelle?
Il s'appelle Lavigne.
Pablo Servigne. Ah oui, Pablo Servigne. Lui, François Ruffin, il dit « Je voudrais donc qu'on en vienne à la nature humaine. Sommes-nous naturellement portés à la coopération ou à la compétition ?» Donc Pablo Servigne répond « Les deux. Mais on est une des espèces les plus sociales du monde vivant. On est câblé pour ça, cognitivement, avec les hormones et tout. » Et c'est logique. À l'adolescence, on est juste un petit primate imberbe, complètement handicapé, qui ne peut pas courir, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas bouger tout seul. Donc tout seul, il serait bouffé par le premier prédateur venu. Mais il a papa, maman, l'oncle, la tante, le grand-père, et il a tout le clan, et il a toute une empathie, une protection du petit, et c'est ce qui fait qu'il ne crève pas illico. Nous sommes faibles dans la nature, et il a donc fallu mettre en place des stratégies sociales pour la chasse, pour la cueillette, pour les soins aux enfants. Et donc, c'est ça qui a sauvé l'homme, c'est la force du groupe.
Alors, et ce qui a sauvé l'homme, c'est aussi d'être un singe nu. Je reprends le titre d'un livre paru dans les années 70, j'ai oublié le nom de l'auteur, et qui disait que l'homme était un singe nu et que c'est à cause de cette nudité qu'il a été obligé de se servir de son cerveau pour évoluer. Et il cite d'ailleurs Darwin, qu'il faut pas... dont on a trop dit que c'était la sélection naturelle. Et qu'est-ce que c'est ? Ben, la sélection naturelle, elle se fait par l'esprit coopératif. Et moi, j'ai apprécié aussi le fait qu'ils disent les deux, compétition et solidarité, les deux. Parce que c'est une contradiction. Et en effet, je pense qu'elle y est partout. Et c'est ce phénomène de la contradiction que Mao mettait dans le petit livre rouge qui réapparaît ici. Il va terminer par un compte-rendu d'une enquête qui a été faite, page 155. C'est autre chose. Il s'agissait de trouver un titre à une association écologiste qui devait se passer. Et alors, c'est autre chose qui est arrivé. Comment ?
Oui, alors donc c'est en 2016, je rencontre, dit-il, Jean Birnbaum. Et voilà, la question c'est, je voudrais partir d'un truc tout bête, la sortie de l'iPhone 7. J'ai entendu dire à la radio, il arrive, et tous les médias en frémissent. Et c'est comme la descente du Saint-Esprit sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Alors c'est ça, je me suis dit, notre nouvelle espérance. Et donc, Jean Birnbaum répond, c'est l'horizon qui est vendu aux jeunes, en tout cas, dans les pubs, sur Internet, à longueur de télé. Et si tu ne veux pas te laisser écraser par tout ça, étouffé par l'argent, les gadgets, la technologie montante, la consommation, il faut donc autre chose. Et autre chose, voilà, ça me rappelle une anecdote. Il y avait un journal révolutionnaire dans les années 90 qui s'appelait justement Autre chose. Les contributeurs devaient voter pour trouver le titre. Il y avait toute une série de noms, l'avant-garde, machin, etc. Et les gens cochaient tous la dernière case, autre chose. Donc, c'était parce qu'aucun nom ne leur plaisait, bien sûr. Et finalement, le plus de voix, c'était autre chose. Donc, le comité de direction a dit, au fond, pourquoi on ne choisirait pas autre chose ? Et ils ont conclu, autre chose. Et il me semble que c'était un super titre. Et si tu n'arrives pas à imposer un autre horizon que l'argent, eh ben il faut chercher autre chose. Et peut-être que c'est à la gauche de porter cette espérance.
Elle a porté cette espérance au moment du Front populaire. Et c'est sur cette lecture qu'on va terminer notre émission. Page 170. C'est la naissance du Front populaire.
Oui, derrière un slogan un peu « ramasse-tout », pain, paix, liberté. Le programme est modeste, sinon creux. Mais la victoire, le 3 mai 1936, est large. Et elle change tout. 57% des suffrages, 386 députés sur 608. C'est un basculement à gauche. Et c'est surtout un basculement au sein de la gauche. Parce qu'avec 1 500 000 voix, le PCF de l'époque double son score et apparaît vraiment comme le grand vainqueur. Pour la première fois, les socialistes ont devancé les radicaux et avec 146 députés contre 110. Donc c'est dans l'ordre le PC, les socialistes et les radicaux. Ce qui est l'inverse de ce qui était avant les années 30. Et on demande à celui qui finalement est l'élément central, on demande à Léon Blum de diriger le gouvernement. Avant même qu'il ne soit nommé, sitôt après les élections, les grèves éclatent. Au Havre d'abord, dans l'aviation, à Toulouse, à Courbevoie. Et on n'a pas eu la force d'attendre, écrit la philosophe Simone Veil à l'époque, métallo chez Renault. Tous ceux qui ont souffert savent qu'on croit à quelque chose et qu'on va être délivré d'une souffrance trop longue, trop dure. Donc les derniers jours d'attente sont intolérables. Il s'agit, après avoir tout plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois ou des années, il s'agit enfin d'oser se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes, même pendant quelques jours. Et indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. On est comme des soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu'il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. Et le meilleur de tout, c'est de se sentir tellement des frères et des sœurs.
Voilà la révolution permanente, on peut dire, selon François Ruffin. Là, il est temps de terminer, puisqu'il est 11h57 à la pendule de Radio Galère, et saluons ce cri de protestation et ce cri d'espoir. Hein. J'ai été frappée, bon, je ne connaissais pas du tout ça chez François Ruffin, de sa grande connaissance, tous les grands noms qu'il cite, notamment Darwin. Et puis vraiment une culture chrétienne, parce que ce Birnbaum, il se place beaucoup dans une optique d'espérance. Ah oui, alors c'est un aspect de François Ruffin que je n'aurais pas du tout imaginé. Peut-être qu'il dirait non, pas du tout s'il m'entendait, mais ça ne fait rien, n'empêche que moi je l'ai entendu dans le livre « Galère, galère ».
Vive la Révolution.
Voilà, ouais. Vive la Révolution.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.